RCC, l'ITV Calvez, animé par François Colombani.
Hello François.
Nagui, comment ça va?
Ben ça va.
Ah, je suis en grande forme là, je me suis reposé 3 semaines.
Oui, grandes vacances.
Ouais, ouais, j'en avais besoin, la saison, tout ça, c'est un homme nouveau, je suis au régime, je fume moins.
Oh là là.
Ouais, j'ai pas arrêté, ouais, effectivement, mais je fume quand même beaucoup moins.
Plein de bonnes résolutions pour cette fin d'année, dis-moi.
Ouais, il nous reste 39 jours.
Ouais.
Avant la fin de l'année. Donc qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Ben, les Français, le 15 de France a battu les Blacks après 13 ans de disette. On est sur la cinquième vague.
Oui,
la cinquième vague du Covid.
Ouais, sans refait, bien sûr. C'est ça. Sans la planche, hein.
Ben voilà.
Brace the nice.
Les émeutes en Guadeloupe. OLPSG, ça s'arrête. Le match, il s'arrête au bout de 2 minutes. Si c'est un jet de bouteille sur paillettes. Rien ne va. Il n'y a plus rien qui va.
Ah, en Guadeloupe, ça pète, là, en ce moment. Ça va fort. Hein.
Un petit mot sur l'inauguration de la maison médicale d'un baptisé du nom d'un enfant de la citadelle, hein, d'Alain Charles Astolf.
Maison médicale de Calvi.
Maison médicale de Calvi. Donc, on fait un petit coucou. Voilà, on fait un petit coucou et bonne initiative. On est le 22 novembre. Et qu'est-ce qui s'est passé un 29 novembre? Alors, déjà, c'est le jour de la betterave rouge. Donc, c'est un jour de merde, hein, parce que c'est dégueulasse, la betterave, faut le dire.
Je suis rare de ça.
Alors, en 1918, Strasbourg est redevenue française.
Oui.
La ville de Strasbourg est redevenue française. En 1963, bien sûr, l'assassinat de JFK par Lee Harvey Oswald ou pas. Ça dépend des théories.
Ou pas, oui, ou pas.
Ouais. En 75, Juan Carlos est proclamé roi d'Espagne. En 90, démission de Margaret Thatcher. En 2005, élection d'Angela Merkel à la tête de l'Allemagne.
La chancelière allemande, la première. Ouais.
En 1928, création du boléro de Ravel. Alors, le boléro de Ravel, c'est ce que tu entends quand tu appelles Pôle emploi.
C'est pas ça, non.
Ou Orange, tu sais.
Oui, c'est ça.
D'ailleurs, est-ce que la famille touche des droits? Parce que je veux dire, c'est vrai que quand t'appelles Pôle emploi, c'est systématiquement ça ou les 4 saisons de Vivaldi. Hein, en 77, première liaison du Concorde, l'avion supersonique Paris-New York.
Ouais.
Alors, les anniversaires. C'est l'anniversaire de Charles de Gaulle.
Oui.
De Jamie Lee Curtis, la scrimeuse. Hein.
Charles de Gaulle militaire et homme de politique français.
De Boris Becker. Alors là, bon, c'est mon ex, voilà, ça me fait toujours du mal d'en parler. Scarlett Johansson.
Ouais, elle nous a quittés en 98.
Quoi?
Scarlett Johansson.
Elle quoi?
Attends.
Non, elle est née en 84.
Ah pardon, excuse-moi.
Oui, bon, j'ai quand même vécu assez longtemps avec elle pour le savoir.
Autant pour moi.
Et encore une ex en 93, l'anniversaire d'Adèle Exarchopoulos, la James Bond girl. Alors, les décès. Qui c'est qui est mort un 22 novembre? Ben, René Coty, ancien président français. Elisa Topek, champion olympique.
Petite parenthèse hein, pour Scarlett Johansson. Elle est devenue célèbre grâce à son rôle dans L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Et ça, c'était en 98.
Ah, voilà.
J'ai mal lu, en fait. Voilà.
C'est la fête nationale au Liban. Et une bonne fête aux Céciles et aux Célia.
Rosie Vart aussi était née un 22 novembre.
Voilà, là, c'est quoi? C'est Maggie, ça.
Oui.
Je parle d'un temps que notre invité, parce que je vais en venir, à lui,
ne
connaissait pas.
C'était les années 80, ça.
Alors, aujourd'hui, je reçois Césaire Allaire, le beau gosse, coach sportif, qui est venu s'installer à Calvi après ses études, pour officier sur les terres de la cité de Calvez. Alors, Césaire, comment ça va?
Ça va, très bien.
Pas trop stressé, tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. On est bienveillant, ou pas, ça dépend. Donc, coach sportif.
Exactement.
Je vais te poser la première question, je pose à tous les invités. Comme ça, du but en blanc, si je te la pose, le premier souvenir Calvez qui te vient à l'esprit comme ça serait quoi?
Premier souvenir Calvez, le collège. À Calvi, je pense.
Collège Jean-Félix Aurabonne. Ouais. Donc là, c'est quoi? C'est bon moment. Quel genre d'élève t'étais d'ailleurs?
Ouais, bon moment. Pas très bon élève, je dois dire.
Déjà bon en sport?
Pas forcément. Pas le meilleur en tout cas.
D'accord.
Mais je me suis accroché.
Donc toi, tu as la particularité quand même, tu as fait une grosse partie de ta scolarité, donc jusqu'au lycée de Balagne, sur place. C'est assez intéressant, comme quoi on peut s'en sortir en faisant son cursus
exactement.
Sur place. Ensuite, donc, tu as ton bac, c'était un bac quoi?
C'était un bac STG.
Un bac STG, ouais. Et donc direction Corté.
Direction Corté, je vais à Corté en partant pour faire l'IUT. et je vais faire GEA, ce qui a été une grosse catastrophe. Étant donné que justement, j'avais pas trop travaillé au lycée et que je savais pas en fait vraiment travailler. Et du coup, je me suis retrouvé un peu face à la réalité et au fait que j'étais pas forcément fait pour travailler de cette manière. Et au final, j'ai atterri après en STAPS, l'année d'après.
L'année d'après, ouais. Donc STAPS. Alors moi, j'avais un souvenir de fac. C'était les STAPS, ils avaient une démarche particulière. On avait toujours l'impression qu'ils sortaient d'un marathon. C'est toujours l'air fatigué avec ce pied qui traîne. En tout cas, moi, quand j'étais jeune, c'est comme ça. On les appelait un peu les seigneurs parce que c'était les sportifs, les beaux gosses. Tu vois. Donc, du coup, STAPS à Corté. Là, est-ce que tu sais ce que tu vas faire ou pas? Ou tu dis, allez, je suis bon en sport, je me mets là-dedans pour faire quelque chose?
Pas du tout. Alors, en fait, c'est ma mère qui m'a beaucoup poussé à faire STAPS à la base. Elle voulait absolument que je sois prof de sport. Ah. Donc, écoute, je me suis dit, après avoir échoué en GEA, je me suis dit, au final, ouais, c'est peut-être un truc pour moi, étant donné que j'adorais le sport. Donc, je me suis dit, un peu comme beaucoup de personnes au final qui vont en STAPS, tu vas parce que tu dis, je suis sportif et j'aime ça, donc ça peut être un truc qui me plaît, mais pas forcément en réfléchissant à ce que tu veux faire après. Et en fait, jusqu'à très très tard, je savais toujours pas ce que je voulais faire. Après, ce qui est bien, c'est qu'en STAPS, tu as plusieurs orientations, donc tu peux soit partir sur l'entraînement sportif, comme j'ai fait moi, tu peux partir dans le management du sport, tu peux partir aussi dans la voie donc, de l'éducation nationale pour faire prof de PS. Donc, tu as vraiment un large choix. Le seul souci, c'est qu'à Corté, en fait, il n'y avait pas forcément beaucoup de choix. À Corté, c'est surtout orienté pour faire prof de PS, ce que je ne voulais absolument pas faire. Donc, du coup, j'ai dû quitter Corté pour m'orienter dans l'entraînement sportif.
Donc là, Corté direction
Lille.
Alors ouais, là, comme c'était beaucoup d'élèves insulaires, il y a le départ. Bon, Lille, ville sympa hein, quand même.
Très sympa.
On se fait tout un monde du temps et tout, mais les gens améliorent la chose. Mais est-ce que le départ, il est violent?
Le départ, il est violent, ouais. Surtout que l'écart, il est quand même grand. Étant donné que, tu vois, par exemple, tu vas à Paris, tu arrives facilement à trouver des Corses ou tu vas trouver des...
Puis même pour rentrer. Parce qu'à chaque fois, tu étais obligé de, pour les correspondances et tout, tu étais obligé de retourner
c'était,
sur Paris.
C'était Lille en train jusqu'à Paris et Paris-Calvi, donc un peu plus loin. Mais ouais, surtout, c'est culturellement qu'on n'est quand même pas du tout pareil. Donc, il faut s'adapter. Mais au final, ça s'est bien passé.
Ça s'est bien passé.
Ouais, les gens du
Nord. Il n'y a pas eu le petit coup de blues
Ouais, un peu. Surtout, c'est le temps quand même. Tu disais, on a fait tout un truc, mais c'est quand même compliqué.
Donc là, tu vas jusqu'au Master 2.
Je vais jusqu'au master, donc je fais ma licence entraînement sportif à Lille et j'enchaîne avec, en fait, même après la licence, je savais toujours pas exactement ce que je voulais faire. Je savais que l'entraînement ça me plaisait, mais après dans quel domaine j'étais pas vraiment sûr. La psycho du sport me plaisait surtout énormément. Donc après quand je vais en master entraînement sportif toujours, et là je me spécialise en psycho du sport pour commencer, enfin en préparation mentale exactement, c'est un peu différent, et donc je poursuis jusqu'à la fin du Master 2, ouais, en effet, à Lille.
Donc Master 2 validé, entre temps, je suppose que l'été tu rentrais.
Exactement.
Et il y a les premiers jobs.
Ouais, alors j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait 5 ans à Marco Plage, où j'avais le snack de Marco Plage, je me suis régalé. C'était beaucoup de boulot parce que j'avais pas de week-end et c'était beaucoup de responsabilités, mais ça m'a beaucoup appris et au final ça m'a pas mal apporté pour ma profession actuelle. Au final, tu vois, c'est une très bonne formation.
Donc comme très petit boulot,
ça sert
d'été.
Énormément. Des fois ça sert plus que ce que tu peux apprendre en cours.
Hein, apprendre la discipline,
exactement,
de se lever.
Exactement,
de...
la rigueur et puis le travail, quoi.
Tu valides le Master 2 et là, qu'est-ce que tu fais?
Donc là, je vais à Paris dans un premier temps pour travailler. Je m'installe à Paris. Je commence à travailler un petit peu en préparation mentale. Et à côté de ça, je travaille aussi dans une salle de sport pour avoir un boulot un peu plus régulier, on va dire. Et au final, je me laisse entraîner dans cette voie. D'abord, je fais des coachs en salle. Et puis au final, je passe sur l'aspect commercial. Et au final, je finis manager de club. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis un petit peu éloigné de ce que j'aimais faire.
De l'essence du truc.
Exactement. Voilà. Et à un moment donné, je me rends compte que je fais un truc qui me plaît pas forcément, qu'il y a beaucoup d'aspects que j'aime pas, que travailler dans des grosses, entre guillemets, des grosses entreprises, c'est pas forcément ce qui me convient. Donc, je décide de tout arrêter pour me mettre à mon compte et reprendre des activités sportives. Et du coup, je commence à coacher à Paris. Et donc, je fais ça pendant 2 ans à Paris. Ouais.
Alors là, ça marche comment? Parce que je pense que, bon, On va en parler. Hein. C'est quand même une activité qui émerge énormément. Hein. On en voit beaucoup. Là, à Paris, tu n'es pas à domicile. Et comment on fait pour exister? On va voir un peu la communauté insulaire on...
Alors, au final, ça peut paraître bizarre, mais je n'ai pas commencé avec les Corses que je connaissais, même si après, j'ai beaucoup travaillé avec les Corses. Au début, en fait, si tu veux, je prends... donc je me mets à mon compte en auto-entrepreneur, mais je travaille beaucoup dans une salle qui me prend pour faire des coachings, mais qui me prend en tant qu'auto-entrepreneur et pas avec un contrat, en me disant ça me fait une stabilité et à côté de ça je vais commencer à faire des coachings. Ce qui est bien, c'est que sur le continent et à Paris, ça se développe beaucoup. T'as des grosses plateformes de coaching en fait qui te mettent en relation avec des clients. Donc, alors elles prennent une bonne commission, c'est ça qui est un peu dommage,
ouais,
c'est ça qui est compliqué.
De placement, quoi.
Exactement. Finalement. Mais par contre, ça te permet de te faire un réseau assez rapidement parce que ça va quand même très vite. Surtout que bon, j'avais des formations, j'avais un master, etc. Donc, si tu veux, ça aide un peu. Donc, j'ai beaucoup direct de demandes et je commence à bien travailler. Et au fur et à mesure, je commence à avoir, tu vois, avec le bouche à oreille un peu de, ne serait-ce que des clients que j'ai, je commence à avoir un réseau plutôt sympa. Et au final, après, je commence un petit peu aussi à travailler avec les Corses parallèlement jusqu'à arriver à la fin où j'étais à Paris, où je travaillais, on va dire, à 50-50. 50% c'était avec des Corses où le bouche à oreille va très très vite sur le continent. Je pense que tu vois, le réseau Corse marche très très bien. Donc, je commence à travailler avec beaucoup de Corses. Et donc là, c'était à peu près 50-50 sur la fin. Ouais.
Alors, pourquoi le retour? Alors, il y a sûrement peut-être le confinement. On en a parlé un petit peu. Il y a peut-être la frénésie parisienne à quitter, parce que c'est un autre rythme de vie. Hein.
Ça a été vraiment... Alors moi, dans tous les cas, je pensais toujours à rentrer. Je veux dire, je ne me suis jamais projeté à très long terme sur le continent. Tu vois,
ouais, avais toujours ça en tête.
Voilà, bien sûr, parce que c'est je suis quelqu'un qui est très attaché à Calvi et à la vie ici. Et donc, du coup, je me voyais mal vivre ailleurs, tu vois, vraiment. Mais après, il faut arriver à trouver le bon moment et la bonne solution, le bon projet pour rentrer. Et en fait, le confinement, alors pas le premier, mais le deuxième. Pendant le deuxième, j'ai commencé à pas mal bosser ici, puisque comme j'étais ici et que je pouvais travailler, j'ai commencé à avoir un petit peu de demande. Et puis, c'est allé au final assez vite. Et j'ai commencé à tellement bosser que je me suis dit, maintenant que c'est lancé, pourquoi pas en profiter pour m'installer définitivement.
Là, je vais toucher du doigt une problématique que certains jeunes qui sont sur le continent peuvent se poser quand ça leur vient, parce que quand ils sont dans l'activité, tout ça, et qu'à un moment, ça remonte, j'ai peut-être envie de redescendre. C'est une problématique qui arrive à tous les insulaires. Est-ce qu'on se dit, ça va être dur financièrement, il y a quand même cette problématique, est-ce que je vais pouvoir vivre? Je vis correctement à Paris, mais est-ce que je vais pouvoir vivre correctement? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'a quand même... effleurer l'esprit en te disant, ouais, je vais rentrer, mais comment je vais en vivre, en fait.
C'est le premier point, c'est le truc le plus important. Tu te dis, est-ce que je vais arriver à retrouver une stabilité? Et surtout qu'on vit à Calvi, mais en Corse, de manière plus générale, c'est très saisonnier. Donc tu te dis, putain, est-ce que je vais arriver vraiment avec une profession qui n'est pas forcément saisonnière à arriver à travailler toute l'année, tu vois. Et ça c'est sûr que c'est la première interrogation. Et c'est là où le confinement m'a rassuré, où en fait j'ai vu que l'hiver, en fait, il y avait vraiment moyen de travailler, il y avait beaucoup de monde qui voulait faire du sport. Donc ça m'a convaincu. Après, tu prends toujours un risque et tu te dis toujours, tu vois, mais faut savoir le prendre, tu vois.
Saisonnalité, justement, on va en parler. Est-ce que ça t'impacte, toi, véritablement? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une grosse différence entre l'été, où c'est un peu schizophrénique, il y a du monde, il y a de la demande, et finalement l'hiver, où on a l'impression quand même que Calvi, c'est la cité dortoir, quoi.
Mais en fait, moi, comme on en parlait, c'est plutôt l'inverse. J'ai beaucoup de monde l'hiver, parce que j'ai les locaux qui sont là et qui ont moins de boulot, forcément, et qui sont plus disponibles. Donc, je travaille beaucoup l'hiver. Et au final, c'est l'été où il faut que, comme les locaux bossent beaucoup et qui ont moins de temps à consacrer au sport, il faut que j'arrive à me bouger pour arriver à toucher une autre clientèle, donc les touristes, avec, par exemple, les conciergeries, les hôtels. J'ai notamment bossé pas mal avec la villa cet été, tu vois, qui m'ont envoyé pas mal de clients. On a fait des randos, on a fait, tu vois, il faut essayer de se diversifier. Après, on a l'avantage d'avoir aussi un endroit où à l'extérieur, il y a beaucoup de choses à faire en termes d'activité sportive. Et donc, faut arriver à en profiter et arriver à tourner de la chose de la bonne manière pour pour que ça travaille aussi bien l'été où on a.
Alors, est-ce que tu n'as pas eu peur? Parce que moi, je me rappelle, alors, au premier confinement, tout le monde était jogger. Il y a eu une génération spontanée de joggeurs. C'est juste pour, je pense, juste pour.
Voilà. C'est les fameux un kilomètre autour de chez toi.
Donc, on a vu se créer des générations spontanées, des gens que j'avais jamais vus en jogging, moi. Alors, moi, je me comprends dans l'eau, hein, jamais. Et ça me faisait rire. Et est-ce que tu te dis pas, ouais, là, il y a un engouement qui se fait parce que pour les gens, ils ont besoin aussi de s'entretenir, tout ça et tout. Est-ce que ça va pas tomber à la fin des différents confinements, en fait, puisque tu as commencé véritablement au second?
Il y a eu, c'est sûr, beaucoup de boulot surtout pendant le deuxième confinement. Et surtout, ça venait aussi du fait que les gens, en fait, c'est, comme tu dis, c'était leur seul truc un petit peu pour sortir à l'extérieur et pouvoir bouger. Après, c'est à nous aussi de faire en sorte que les gens restent actifs et continuent à faire du sport, tu vois.
Alors, justement, on va parler justement de ta vision du coaching et ensuite des profils un peu des clients que tu peux avoir.
Ouais.
Voilà. Alors, je t'appelle. Je te dis, voilà, ça fait un moment que j'ai pas fait de sport. Comment on peut travailler ensemble? Voilà. C'est quoi ta vision des choses?
Alors, tout d'abord, ça dépend de tes objectifs, de ce que tu veux atteindre et de ce qui est réalisable aussi. Et de ce que je vais penser que aussi tu pourrais avoir besoin. C'est-à-dire que des fois, j'ai des clients qui arrivent pour quelque chose et au final, on se rend compte que d'abord, il y a d'autres choses à travailler avant. Tu vois, avant d'avoir un corps de rêve, il y a par exemple retravailler la posture, retravailler certaines choses qui vont te permettre après, de, selon tes objectifs, de pouvoir les atteindre. Mais la première chose, c'est savoir ce que tu veux et ce que tu es prêt à l'engagement que tu es prêt à mettre pour l'atteindre. Tu vois.
Alors ça, c'est le profil du client, quelque part. Tu discutes avec lui en amont pour ensuite déterminer des objectifs et des trucs.
Exactement.
Le type de client, c'est quoi? On est obligé d'être sportif ou on peut partir de zéro?
Alors, pas du tout. Justement, beaucoup ont tendance à penser que...
Ouais, je vais prendre Césaire, je le vois courir, t'es fou, s'il me fait faire ça, je vais faire un AVC.
Pas mal sur les réseaux et tout, j'en ai beaucoup qui me disent, la première chose qu'ils me disent c'est, par contre moi ça va pas être du tout ce que je vois, tu vois. Mais c'est normal, t'as forcément une vision du truc et tu te dis, putain, est-ce que je vais y arriver? Ce qu'il faut savoir c'est que forcément nous on va s'adapter, l'essence même de mon boulot c'est de m'adapter en fait à ce que veulent les gens et pas forcément vouloir imposer une méthode ou vouloir... imposer quelque chose, mais plutôt s'adapter à tout le monde au niveau, comme je te disais, à l'engagement que tu es prêt à mettre. Si tu vas t'entraîner une fois par semaine, ce ne sera pas le même travail que si tu t'entraînes 3 ou 4 fois. Tu vois, donc, il faut arriver à écouter, à comprendre un peu aussi la psychologie des gens. Tu vois, pourquoi ils font vraiment ça? Est-ce que tu as vraiment envie? Est-ce que ça va pas devenir... faut pas que ça devienne une tannée non plus, il faut que ça reste un plaisir. Moi, j'essaie toujours de montrer aux gens qu'il faut avant tout que ça te fasse plaisir et que ça te fasse du bien. Tu vois, si tu viens mais que tu n'as pas envie et que tu préférais être ailleurs et que c'est vraiment, ça devient, comme je te disais, une tannée, c'est contre-productif. Tu vois, c'est qu'à un moment donné, tu finis par lâcher, tu finis par partir dans l'extrême opposé. Tu vois.
Alors, on va en venir parce que bon, là, c'est par rapport à tes études parce que vous étudiez l'anatomie, pas mal de choses hein, quand vous êtes en STAPS. Ouais. Moi, je me rappelle, j'étais à Toulon, donc c'était souvent ceux qui étaient au RCT, ceux qui étaient en STAPS. Ils avaient un statut particulier et des fois, bon, pas de péjoratif envers les rugbyman, mais bon, quand ça parlait d'anatomie, j'avais l'impression que ça percutait pas trop. Tu vois, je me disais, putain, je trouvais que c'était très, très tendu en bio et en truc et tout. Je disais, putain, c'est soutenu, finalement. Alors, c'est peut-être un peu péjoratif pour être prof de sport. Donc, ouais. Non, au final, c'est utile parce que, par exemple, si moi, je reviens d'une blessure et tout ça, tu es capable d'adapter, finalement, les exercices en fonction de la... problématique de la personne, même physique.
Exactement. C'est très important, comme tu disais, pour faire un diagnostic et savoir exactement comment travailler et comment adapter ton travail. T'as besoin de... Pour moi, après, moi, je viens de la filière universitaire, donc forcément, je défends ça parce que c'est comme ça qu'on me l'a... comme ça qu'on m'a appris les choses et du coup, c'est devenu un peu mon point de vue. La base théorique, elle est super importante pour faire ton diagnostic, mais aussi après pour toutes les corrections, etc., que tu pourrais...
Oui, jouer avec le corps des gens, c'est-à-dire pas les pousser...
Exactement. Tu vois, par exemple, la biomécanique, même si c'est très dur et qu'en plus, on te l'apprend en première et deuxième année où tu débarques un peu et c'est des trucs très techniques, très scientifiques au final, tu vois. Moi qui venais d'un bac STG, c'était pas forcément mon domaine, et c'est pour ça que c'est difficile les premières années. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui quittent au final après la première année. Mais au final, après, tu te rends compte que c'est hyper important, parce que par exemple, la biomécanique, ça t'apprend les angles d'orientation de toutes les articulations, etc. Tu vois, c'est hyper important après à savoir pour pouvoir corriger les gens et pouvoir éviter les blessures.
Et que ça pète, c'est ça.
Exactement. Et ça, si t'as pas ce contenu-là. Alors tu l'apprends un peu sur le tas aussi, mais c'est important d'avoir de bonnes bases.
Alors tu as commencé l'activité en plein air.
Exactement. Ouais.
Là aussi, comment on fait quand on a la, parce qu'on va en venir à la nouveauté.
Ouais.
quand on est conditionné justement par les conditions atmosphériques, comment on adapte les choses, comment on fait?
Bah, t'es obligé de t'adapter. Faut faire avec. Faut essayer de trouver le moyen de toujours rester à l'extérieur. Après, c'est sûr, c'était plus difficile à Paris. Au final, à Paris, je faisais vraiment que à l'extérieur et il pleut quand même très très souvent. Donc, tu fais beaucoup de courses sous la pluie. Il faut t'adapter. C'est pas toujours évident. Après, c'est sûr qu'avoir le confort d'une salle, c'est toujours mieux. Mais à l'extérieur, il y a toujours moyen de trouver une solution pour te bouger. Après, le problème, c'est que si tu t'arrêtes aux conditions météo, t'es un peu dépendant. Donc, au final, tu fais pas grand-chose. Surtout, comme je dis, à Paris, où s'il pleut, d'un coup, pendant 3 semaines, il s'arrête pas de pleuvoir, et comment tu fais? Tu peux pas arrêter.
Mais même à Calvi, ça peut être une...
Mais à Calvi aussi, ça peut être... On a des journées difficiles.
Après,
ce qui est bien, c'est qu'on a quand même des belles journées, donc on peut quand même faire pas mal de cours à l'extérieur. Mais le confort d'une salle est quand même, je pense, indispensable.
Et pour pallier à ça... La nouveauté, parce que c'est récent, c'est du mois d'octobre.
Ouais, exactement.
Il y a une salle.
Il y a une salle, donc j'ai ouvert une salle Avenue Santa Maria, qui s'appelle Studio 16, où du coup je fais mes coachings. Alors c'est pour l'instant une salle qui est exclusivement réservée au coaching, mais j'aimerais bien aussi arriver à l'ouvrir en fait à la location, tu vois, la louer à l'heure ou pour des matinées ou pour, tu vois, les moments où moi en fait je travaille pas dedans, arriver à l'optimiser et faire en sorte que les gens puissent venir et s'entraîner sans que je sois là. Ça, j'aimerais vraiment le développer parce que ça manque un peu, je pense, en centre-ville, tu vois. Il y a beaucoup de monde au final qui fait du sport par soi-même et je pense que ça pourrait être intéressant de la laisser à disposition, tu vois, pour des gens qui voudraient venir s'entraîner.
Format quoi, d'abonnement mensuel peut-être?
Pas forcément, tu vois, location, un peu comme je fais moi sur les coachings où je fais un forfait à l'heure. Bah tu vois, les gens ils viennent et puis ils payent leur heure de sport ou 2 heures ou 3 heures, tu vois, même seul ou à plusieurs. Mmh. Et tu as une salle à dispo pour venir t'entraîner. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait plaire. Ça demande un peu de mise en place, donc pour l'instant je l'ai pas fait d'entrée, mais c'est en projet.
On va pas aborder les questions qui fâchent.
Ah,
j'étais gentil, je suis pas. Alors nouveau job. Alors moi je vois dans Calvi multiplication des coachs sportifs. Est-ce que ces derniers mois, ces dernières années, est-ce que c'est un problème dans un bassin de vie qui est quand même pas très grand?
Je vois pas ça comme un problème. En tout cas, tout le monde a plus ou moins ses orientations, ses spécialités. En fait, dans le coaching, c'est tellement large, il y a tellement de choses à faire que je trouve qu'on se complète bien à Calvi. Tu vois, un, il va plus avoir la boxe, un, ça va être plus la diététique, l'accompagnement. Moi, c'est plutôt du circuit, du cross-training, un peu plus intense de manière générale, même si je m'adapte. Tu vois, il y en a où ça va être plutôt de la musculation. Voilà, je pense qu'on se complète bien et vraiment qu'il y a du boulot, il y a du boulot pour tout le monde. Ouais.
Donc, il n'y a pas de contre-indication. Et si, par exemple, tu vois un de tes clients aller un peu chez les autres, chez toi, tout ça, on le prend mal?
Ils reviendront plus chez moi. non, au contraire, tu vois, il y a des choses où moi, par exemple, on va me demander de la boxe. Je sais que je sais pas faire. C'est pas dans mes compétences, donc je vais l'envoyer chez un confrère qui lui est plus qualifié que moi. Et au contraire, je trouve que c'est plus intéressant de travailler comme ça.
Malgré tout, de bienveillance entre les.
Bien sûr, c'est important. Tu peux pas te marcher dessus sur une ville aussi petite. C'est bien qu'on travaille tous ensemble et qu'on profite mutuellement de ce que chacun sait faire, tu vois.
Alors après, la légende, moi je me souviens, les Staps, c'était les beaux gosses, les sportifs. Est-ce que c'est plus facile avec les filles?
Je crois pas.
Non. Claire, un mythe s'effondre.
Hein, j'ai pas l'impression. T'es plus souvent vu comme un. Comme, bah, comme tu disais, comme un star, où tu dis putain, ils doivent pas être très, ils sont forts en sport, mais ils doivent pas être très intelligents. T'as plus ce côté-là, ah, je trouve.
Non,
que...
tu penses qu'encore aujourd'hui, il y a encore. Non, parce que moi, je reviens, hein, c'était compliqué. Moi, je voyais, parce que j'avais le bâtiment juste à côté des Staps et tout.
Ouais.
Genre, les cours, je me disais, mais attends, je fais même pas moi en terminale, j'ai fait ces cours de bio là. Donc, il y a une légende vraiment sur le potentiel intellectuel et le ratio muscle-cerveau. Non, non,
c'est, après, c'est compliqué. Après, t'es obligé de. Tu vois, l'accepter entre guillemets, moi ça m'arrive tout le temps, c'est ouais, bon, lui il est coach, qu'est-ce que tu essaies de l'expliquer, tu vois. Mais bon, ça fait partie de la vagane et c'est important aussi.
On va passer aux questions flash,
ouais,
pour terminer. Alors, c'est très simple, faut pas trop réfléchir. Si tu étais une qualité, quelle serait-elle?
La patience, et je crois que c'est important dans le métier que je fais.
Si tu étais un défaut,
Je remets trop souvent au lendemain. C'est la procrastination.
Ah ouais.
Ouais, tu vois, ça peut paraître
bizarre,
compliqué,
oui.
Mais je me suis amélioré. Ça va faire rire mon père parce qu'il me l'a dit toute ma vie, mais je remets trop au lendemain.
Est-ce que tu as un héros de la vie réelle ou de fiction qui t'a suivi
De la vie réelle, j'ai beaucoup de héros dans le sens où les sportifs de très haut niveau, tu vois, Jordan, Ali et ce mec-là, pour moi, c'est des héros donc dans la vie réelle. Mais sinon, après, fictif, Batman, ça a toujours été.
D'accord. Moi, je suis plus Joker.
Ah merde.
Oui,
c'est vrai.
Ce que tu détestes le plus chez l'homme?
La connerie, la bêtise.
La chose dont tu es le plus fier?
La chose dont je suis le plus fier, en ce moment, c'est d'avoir réussi à faire ce que je voulais faire.
Est-ce que... Alors là, on est dans mon émission. Dans mon émission, tout est permis, hein, Nagui.
Ah oui, tu peux y aller.
On est libre antenne. Oh, oui. Est-ce que tu as une insulte qui revient souvent, l'insulte préférée, celle qui t'échappe même quand tu veux pas, tu peux la dire?
Je suis pas très insulte, mais enculé, je pense.
Ah, ça sort. Hein. Oui.
Voilà, ça fait fort. Quand
si
même.
On peut le dire, ouais. Si on peut le dire, c'est pas très beau, mais c'est ça qui me vient en premier.
On peut. Tous les invités le disent.
Pas très élégant.
Pas celle-là, mais tous les. Ouais. Je suis très surpris moi par les femmes qui sont plus vulgaires finalement que les garçons.
C'est vrai. Oui.
Oui. Quand je leur pose la question, ouais. C'est les filles, elles y vont, mais. Une phobie.
Une phobie. Je crois pas avoir vraiment de phobie.
Pas de le vide, tout ça, non?
Non, pas vraiment. Mais par exemple, j'ai peur, je regarde pas de films d'horreur, par exemple. Ça me fait vraiment peur. Tu vois? Mais après, de phobie comme ça dans la vie, j'en ai pas. Mais films d'horreur, impossible.
La dernière fois que tu as pleuré?
Alors, ça peut être pour un film, mais ça peut être pour... Ça serait sûrement devant ma télé, ouais, devant un film. Il y a de grandes chances.
Ton péché mignon? C'est rigolo ça, parce que justement, on va dire les sportifs font attention à tout. Est-ce que tu as un petit péché mignon?
J'ai beaucoup de péchés mignons. Ouais.
Tu n'arrives pas à résister.
La gourmandise, ouais, je mange. En fait, à partir du moment où il y a quelque chose à manger devant moi, je suis incapable de ne pas le manger. C'est compliqué à gérer.
La dernière question de l'émission, si tu pouvais revenir en arrière et parler à l'enfant que tu étais à 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais?
À 10 ans À 10 ans, c'est compliqué.
Si t'arrives à lui dire quelque chose.
Je lui dirais que ça va bien se passer et que je serai heureux plus tard. Je pense que c'est plus important. Souvent, jeune, je me projetais, je me disais putain, qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que je vais devenir, tu vois, enfin, qu'est-ce que ça va donner.
Moi, j'arrivais
et
pas.
Au final, et j'ai jamais su. Au final, quand j'étais jeune, impossible de. Donc, ça j'y va bien se passer.
Moi,
ça
je
va
vivais passer. Au jour le jour.
Mais j'en ai rien à changer. Je changerai rien.
Alors, je rappelle. Alors, on va quand même faire un petit point pub. Hein. Insta.
Coach Césaire. Ouais, très simple.
Facebook.
Coach Césaire aussi, je pense que ça s'appelle la page, même si j'utilise moins.
Alors, on va le remarquer après sur le lien de l'émission. On rappelle la salle Studio 16.
Studio 16, exactement. Alors, qui n'est pas sur Insta, mais que je partage beaucoup sur Coach Césaire. Mais ouais, Studio 16, avenue Santa-Marie, donc juste en face du 2B informatique.
Donc, voilà les amis, on va faire des excès là. On arrive sur le mois de décembre, le mois compliqué. Hein. Nagui.
Oui.
On va craquer, on le sait. On va craquer au mois de décembre, la dinde, les gâteaux, les machins, les trucs, l'alcool. Bien sûr.
Avec modération.
Oui, en fait,
donc.
Oui, aussi avec modération quand même.
On pourra pas dire qu'à RCC, on n'a pas donné les clés. Les clés pour pallier aux excès. Donc, alors,
voici les clés de ton bonheur.
Si vous voulez anticiper en amont, vous avez Césaire qui vous attend avec, avec impatience et bienveillance.
Avec grand plaisir.
Voir après, en janvier, quand vous, vous êtes déjà mis dans le rouge, que c'est terminé, que le mal est fait, vous pourrez le voir. Césaire, c'était un plaisir. Merci
pour
à
moi
toi
aussi, vraiment.
D'être venu à l'émission. Et chers amis, je vous dis à la semaine prochaine.